français, française. J'ai le plaisir de constater qu'au lendemain des obsèques de Madame Aubrac, les rafles ont repris de plus belle.
Eh bien, moi, je viens d'assister à un événement horrible. Ils ont embarqué une jeune femme à la mairie, à la gendarmerie de Muriel-les-Béziers. Ils ont attrapé une jeune femme comme ça. Ils lui ont mis les menottes. Ils ont cinq gendarmes dessus. Il faut aller vite, vite. Regardez à Muriel-les-Béziers. C'est horrible ce qui vient de se passer. Vite, que quelqu'un y aille. C'est horrible.
Bonjour, je m'appelle Corinne et je vous téléphone pour lancer un SOS, un appel au secours, s'il y a des gens humains dans cette société. Parce que je fais partie de la population qu'on appelle et qu'on a banalisée, exclue. Hein, exclue. La violence de ce mot déjà ne dérange plus personne. J'habite dans une grande cité, quartier nord de la Seine-sur-Mer, dans le Var, 15 000 habitants officiels. On est carrément abandonnés. On parle beaucoup des jeunes des quartiers, mais quand est-ce qu'on va parler des parents ou des habitants de ces quartiers qui ont des choses à dire, des femmes d'âge mûr comme moi, les parents. Nous sommes un groupe de femmes dans ce quartier. On souffre de tout, de la ghettoisation. Aucun politique, absolument aucun, n'est venu dans notre quartier nous demander, essayer de nous rencontrer. Je dis bien aucun. Et il y a une chose seulement qui nous rassurait. On est plusieurs à vouloir voter José Bové parce que c'est le seul à dire aujourd'hui qu'il est citoyen du monde. Citoyen du monde. On oublie le mot humain ici, maintenant, en France. On vit dans une violence institutionnalisée, parce que la violence, ça n'est pas seulement quand les voitures brûlent dans les quartiers. C'est tout l'irrespect que l'on subit, l'isolement, l'abandon, je sais plus quoi dire, moi. Au secours, aidez-nous. Aider les exclus, c'est-à-dire les gens, les femmes, ces femmes, il faut nous honorer. On vit avec 400 euros par mois. Hein? Nos enfants, c'est un combat de tous les jours pour les protéger, pour les éduquer correctement. On se sert de nous que pour... on est, comment dirais-je, un fonds de commerce, nous les pauvres. Comment se fait-il personne ne jamais ne remet en cause le travail social. Et là, je sais ce que je dis. Je n'ai pas peur. Les travailleurs sociaux qui nous jugent en permanence, qui ne nous aident pas, qui nous jugent, qui font des détournements de droits. Et je suis sûre de ce que je dis, à savoir, par exemple, comment se fait-il aujourd'hui que la loi contre l'exclusion, qui prévoit bien l'article 136, qu'on ne peut pas couper l'eau ni l'électricité, etc., sans qu'il y ait eu une enquête sociale avant, et mettre en place dans chaque département un fonds d'aide à l'eau. Eh bien, nous, chez nous, dans le Var, aujourd'hui, ma voisine, elle a reçu 1200 euros, elle est au RMI de facture d'eau, hein, elle a 5 enfants. Elle va chez l'assistante sociale. L'assistante sociale lui dit « Ça n'existe plus maintenant, madame, le fonds d'aide à l'eau. Débrouillez-vous, négociez avec la CERC. Hein » Voilà, c'est comme ça. La CMU, les médecins sont obligés de la prendre, c'est la loi. Eh bien non, les médecins ne veulent pas les gens de la CMU parce que ça fait tâche dans leur cabinet. Et là, est-ce qu'ils respectent la loi? Et comment fait-on, nous, les pauvres, pour faire respecter nos droits? Ce ne sont pas les assistantes sociales ni les éducateurs qui vont nous aider. Parce que eux, ils répètent les ordres d'en haut de l'État. Eh, on fait de nous des assistés, on fait de nous des miséreux. Voilà.
J'ai peur de ce qui vient doucement, de ce qui s'approche. J'ai peur de ce qui s'annonce, le loup sort du bois. J'ai peur de ses résultats, ses élections. J'ai peur de cet homme dangereux qui déploie des fausses armes savantes et poétiques pour endormir et attraper les électeurs, dupes, naïfs. J'ai le sentiment que tout est joué. Je veux crier aux gens de rester vigilants, attentifs et résister face à ce danger. Dans 2 mois, c'est fini. J'ai envie d'avoir un enfant, je suis jeune, mais j'ai peur de cette société qui se dessine. Un facteur trop généreux est taxé de dépasser les limites de son travail. Le monde devient fou, des employés demandent l'autorisation pour aller aux toilettes, les menaces d'expulsion. J'ai peur. Hier, j'ai dit à mon homme, s'il passe, on entre en résistance. On attaque le pouvoir en place. Et on tient. Tout, mais pas lui. Pas lui. Pas Sarkozy.
Voilà, merci pour ces messages, amis modestes et géniaux, auditeurs modestes et géniaux. Aujourd'hui, on continue la série de reportages en Chine. Mais auparavant, quand même, on a l'impression, là, ce matin, ces heures-ci, que quelque chose est en train de dérailler. On vous en a parlé à l'instant dans le journal, à 15h, l'arrestation de cette directrice d'une école maternelle, l'école maternelle Rampal, à Paris, dans le 19e arrondissement. Valérie Bokobza a été arrêtée et mise en garde à vue ce matin au commissariat du 19e, le commissariat Éric Satie. Bon, petit détail, pourquoi ça? Eh bien, vous avez compris, il s'agit d'une suite à une tentative d'arrestation mardi soir. Il y a eu des incidents aussi lundi, mais mardi soir, c'était assez fortiche quand même. On a, les forces de l'ordre ont tenté d'arrêter un monsieur âgé, un charmant grand-père qui venait chercher ses enfants, petits-enfants, à l'école, émotion des parents d'élèves, émotion aussi des militants de RESF, et les parents se sont interposés. Il y a des jets de gaz lacrymogènes qui ont été tirés par la police sur les parents d'élèves. Des enfants auraient été touchés dans cette algarade. On est en train quand même d'assister à une dérive. Alors on a une auditrice qui s'appelle Caroline et qui nous a appelé et qui a répondu aux questions d'Antoine Chao.
Donc Caroline, vous êtes à Belleville, donc devant le commissariat du 19e arrondissement, et on a appris ce matin que la directrice de l'école Rampal a été mise en garde à vue. Donc vous pouvez nous rappeler un petit peu les différents événements?
Oui, alors en fait, tout a commencé lundi. Une dame chinoise qui venait chercher sa nièce à l'école, qui a été arrêtée suite à un contrôle d'identité. Tous les parents se sont interposés. La directrice a protégé l'enfant qui est à l'intérieur, l'a gardé à l'intérieur de l'école. Et un peu plus loin, suite aux protestations, les policiers ont relâché cette personne. Et puis mardi, à nouveau, donc vers 17h en fait, la police est rentrée dans un café qui est vraiment juste en face de l'école, a fait des contrôles d'identité et a trouvé une personne sans papier. Et donc, nous étions à l'extérieur, à la sortie, et nous avons protesté contre l'arrestation de ce sans-papier qui a aussi deux enfants qu'il allait aller chercher à l'école dans le quartier. Et à ce moment-là, donc, ça a un petit peu tourné à l'émeute, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont interposés, qui se sont allongés par terre pour empêcher la voiture de police de partir. Tout le monde criait « relâchez-le, il n'a rien fait ». Et au final, ils ont lancé les gaz lacrymogènes alors qu'il y avait des enfants, quoi. Des enfants qui assistaient aux brutalités, qui ont pris du gaz dans la figure.
Donc des enfants qui sortaient de l'école, hein, qui sortaient de l'école maternelle, oui.
Des écoles primaires, maternelles. Il faut savoir que ce café, il est vraiment au milieu de quatre écoles, quoi. Et donc, les directeurs d'école ont rouvert les écoles, ont fait rentrer les parents, les enfants. On était tous en train de pleurer. Ça brûle énormément. Enfin, ça brûle beaucoup, quoi, le gaz lacrymogène. Donc, on a pu se rincer le visage. Ils ont occupé les enfants, etc. Le temps que tout le monde vienne chercher ses enfants et que le gaz se dissipe, quoi. Donc, c'était quand même d'une violence assez insupportable, quoi.
Il faut rappeler que sur Belleville, on a régulièrement donc des arrestations et on a des opérations coup de filet dans tout le quartier du métro Belleville.
Tout à fait, et ça s'intensifie ces derniers temps. Voilà.
Et donc depuis mardi, c'est devant les écoles, donc par deux fois que la police a tenté des arrestations.
Exactement. Et quand on s'est interposé, ils se sont montrés très violents.
Donc quand vous dites.
Et là, en fait, ce matin, ils ont. Donc nous, on devait. On est passé au commissariat de quartier pour déposer une plainte, des plaintes à l'inspection générale des services contre les brutalités policières dont nous avons été victimes, en fait. Mais pendant ce temps-là, la directrice de l'école Rampal, l'école maternelle Rampal, était convoquée. Et finalement, on a appris par la suite qu'elle avait été mise en garde à vue et elle serait mise en examen pour dégradation de biens publics et outrage en réunion publique.
Et donc là, voilà, vous êtes en ce moment devant.
Là, on est tous devant le commissariat et on.
Et vous demandez la libération de la directrice, hein, c'est ça. Vous demandez la mise en liberté.
On demande à ce qu'elle sorte, ouais, voilà.
Nous sommes des enfants de sans-papiers.
Nous sommes des enfants de sans-papiers.
Nous sommes des enfants de sans-papiers.
Un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'a pas de carte de séjour, même s'il est en France depuis longtemps.
Comme beaucoup d'entre vous, nos parents sont venus d'ailleurs.
Ils ont su la violence, la misère. Ils sont venus pour travailler et pour nous donner une vie meilleure.
Certains d'entre nous sont nés ici. Avec ou sans papier, la France est notre pays.
On vit dans des hôtels meublés, des appartements, des chambres où on s'entasse.
Tous les jours, on a peur.
On a peur que nos parents soient arrêtés par la police quand ils vont au travail, quand ils prennent le métro.
On a peur qu'on les mette en prison.
Que nos familles soient séparées et qu'ils nous renvoient dans des pays qu'on ne connaît pas.
On y pense tout le temps, à l'école aussi. Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on va à l'école?
L'été dernier, nos parents et nous, on a eu l'espoir d'avoir enfin des papiers.
On a fait des dossiers, on a passé la nuit à faire la queue devant des préfectures.
On s'est inscrit dans des bureaux, on a cru qu'on serait régularisé, que le cauchemar serait terminé.
On remplissait tous les critères.
Mais on nous a dit non.
Nous sommes venus à visage découvert, avec nos noms, nos adresses. Ceux qui ont eu leurs papiers avaient le même dossier que nous. Pourtant, on nous a dit non, arbitrairement.
Maintenant, on est en danger et on doit se cacher. Pourquoi cette injustice?
Nous ne voulons plus vivre dans la peur. Nous voulons que la France nous adopte. On veut être régularisés. Laissez-nous grandir ici.
Laissez-nous grandir ici.
Laissez-nous grandir ici.
Voilà, alors je vous donne l'adresse du commissariat devant lequel se trouvent ses parents et notamment cette auditrice. C'est le commissariat Éric Satie, rue Éric Satie à Paris, dans le 19e arrondissement, au métro Ourcq. Voilà, on continue notre voyage en Chine. Et aujourd'hui, c'est vendredi, on s'était promis de se détendre un petit peu, quoique ça va être assez tendu, puisque vous allez tout savoir sur la capitale du Kung Fu. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, j'écoute ton émission sur les travailleurs en Chine, dans les mines. 7 jours de travail par semaine, 2 jours de congé pour le nouvel an peut-être. Et j'ai retrouvé un article de Libération lors du dernier voyage de notre président Jacques Chirac en Chine. Et c'est un journaliste qui rapporte le dialogue de Bernadette Chirac qui s'adresse à Serge Dassault. Et je vous lis l'intervention. Vous avez vu Serge, il travaille jour et nuit, ces Chinois, jour et nuit. Et pendant ce temps-là, nous en France, on dort. Il faut arrêter cette décadence du travail chez nous.
Bonjour, c'est un message pour annoncer le repère de Ploubalet qui aura lieu le mardi 27 mars à 20h chez Pierrot et Marie, donc au Penalty à Ploubalet.
Oui, bonjour, là-bas c'est d'ici, c'est Agathe, grévistes à Citroën depuis le 28 février, en grève pour l'augmentation des salaires, sur l'embauche des intérimaires et pour le départ en retraite des vieux travailleurs de l'usine à 55 ans. Donc je voulais rappeler le rendez-vous de la manifestation qu'on fait demain sur tous ces sujets-là et appeler à toutes les bonnes volontés et tous les gens qui pensent que c'est nécessaire de se battre pour ces sujets-là. Donc rendez-vous demain à 14h30 au métro Barbès à Paris. Et enfin une belle manif. Allez, merci, salut.
Une journée noire dans le monde du travail. Un syndicat français vient en effet d'être créé pour défendre les intérêts des travailleurs esclaves. La CNED, Confédération Nationale des Esclaves Déçus, est donc le premier syndicat créé depuis l'interdiction du syndicalisme qui eut lieu en 2007 au lendemain de l'élection du président Sarkozy. L'administration Sarkozy, forte de sa devise « travailler plus pour travailler plus », avait pourtant mené une politique très offensive contre le chômage en réduisant de près de 100% le SMIC horaire afin de séduire les patrons chinois en leur offrant une main-d'œuvre française meilleur marché qu'en Chine. Une mesure qui avait porté ses fruits puisque s'en était suivie une longue série de délocalisations des entreprises chinoises vers la France. La CNED fait donc peser la menace de négociation pour une réévaluation du SMIC au-dessus de la barre des 2 euros par mois et un deuxième jour de repos par an, ce qui, selon le syndicat, constituerait un progrès majeur en termes de pouvoir d'achat et de qualité de vie pour tous les travailleurs esclaves français. Le président Sarkozy s'est dit inquiet de la tournure que prennent les événements et a aussitôt convoqué la ministre déléguée à l'esclavage, Madame Parizeau.
Et je me souviens, donc, le premier round de ce combat, le gars, avec d'un coup de pied, il m'a cassé 6 dents dans la bouche.
À nous deux.
With my teeth broken, I didn't fall down. I get up.
J'avais toutes mes dents cassées, je me suis pas tombé. Et je me suis relevé et j'ai continué à me battre.
I lost the first round, but I win the second and the third round, and then I come to China to represent my country.
J'ai perdu le premier round, mais après j'ai gagné le deuxième et le troisième round, et c'est comme ça que j'ai gagné le droit de venir en Chine pour représenter mon pays dans un combat de kung-fu.
Bienvenue en Chine.
Bienvenue en Chine.
Nous on est français.
France.
On vient de France.
Ah,
ouais, c'est ça. Tu connais la France ?
Là-bas, si je suis France Inter.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si je suis avec Guy Vanctil. La Chine, un éléphant qui fait du vélo.
Flight number 2, arriving from.
On aura tout vécu. Comment on en est arrivé là ? C'est pas possible de remonter tout le fil qui fait qu'on est arrivé là. Alors déjà, on va essayer de décrire le cadre. On va commencer par la fin. Il y a trois gars qui sont en train de jouer aux cartes sur un poêle. Sur le poêle. Le poêle, c'est un bidon. Il y a une planche, une table métallique. Il y a un tuyau de poêle qui s'en va dans le coin du bidon et qui ressort par l'extérieur, ce qui indique que c'est un poêle. Bon, ils sont sympas, souriants. Ils se foutent complètement de notre présence. Donc, tout va bien. Alors, après, il y a un gars qui est assis en face de nous, à notre gauche, qui est souriant, avenant, content, et qui nous couvre du regard, mais comme s'il nous gardait.
Il nous fixe, quoi.
Il nous fixe. Pourquoi ? Parce qu'il a appelé le responsable des relations avec l'étranger. De quoi ? De cette entreprise où nous sommes. Quelle est cette entreprise où nous sommes ? Si nous regardons à droite, on se dit que c'est une fabrique de coupes sportives. Il y a tellement de coupes alignées sur les étagères qu'on se dit qu'il les fabrique. Mais ben non, on comprend si on lève un peu les yeux, si on regarde des photos. On voit des jeunes gens, des jeunes filles qui sont triomphants. On comprend peu à peu qu'il s'agit de lutteurs, qu'il s'agit de boxeurs et qu'il s'agit de kung-fu. Ici, nous sommes dans une école de kung-fu. Voilà. Et cette ville où nous sommes est une ville consacrée entièrement à la formation des jeunes gens qui veulent faire du kung-fu. Et il y a des dizaines d'écoles et des milliers de jeunes gens de Chine et d'ailleurs qui viennent ici se former à l'art martial du kung-fu. Alors, auparavant, nous sommes allés visiter le temple de Shaolin. Magnifiquement bien situé dans le paysage, dans la lumière du paysage, un très très beau paysage de montagnes grises qui vont s'éloignant des gris. Magnifique!
C'est un peu le Lourdes de la castagne. Et c'est devenu une économie très rentable pour la région qui développe une espèce de monoculture des sports de combat.
Et ben voilà, nous voilà à Shaolin, nous voilà à Dengfeng, nous sommes toujours dans le Renan. Et là, on est quand même dans cette ville de Dingfeng qui est tout à fait extraordinaire, puisque vous avez commencé à comprendre un peu où on se trouve. Eh bien, c'est là qu'on fabrique tous les Bruce Lee du monde. Tous les Bruce Lee du monde, pas seulement venus de Chine, mais du monde entier. Des jeunes gens et des jeunes filles aussi viennent ici se former à l'art compliqué. Du Kung Fu. Alors c'est une ville de 80 000 habitants, Dingfeng, mais il y a 30 000 jeunes gens et jeunes filles qui, à longueur d'année, apprennent cet art martial du Kung Fu. Pourquoi faire ? Eh bien, bien sûr, pour devenir Bruce Lee, pour devenir une vedette de film, une vedette de cinéma, mais aussi simplement pour trouver du boulot par la suite, eh bien, dans la police, dans l'armée éventuellement, ou comme garde du corps, ou simplement comme gardien. Voilà, ce sera toujours ça, selon les qualités, selon l'ouverture du marché du travail. C'est assez coûteux. C'est assez coûteux, de 150 à 500 yuan par mois, c'est-à-dire de 15 euros à 50 euros par mois, ce qui est cher quand on songe que les revenus moyens d'un paysan tournent autour de 400 yuan. Évidemment, c'est très cher, c'est un gros sacrifice pour les parents et on attend beaucoup de cette scolarisation qui est assez proche de la formation militaire. Ville étonnante, une grande avenue centrale, une route qui traverse cette ville, et de chaque côté, ben, ces immenses bâtiments qui ressemblent encore une fois à des casernes et qui affichent des tarifs, une présentation assez flatteuse pour ceux qui viennent s'y inscrire et y apprendre cet art martial bien connu. Et c'est là qu'on se trouve ce jour-là, ce soir-là, cette matinée-là, tous ensemble, avec vous d'ailleurs, amis auditeurs, jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, l'usine du Kung Fu.
Vous allez mourir, bientôt vous ne serez plus de ce monde.
D'abord, je vengerai mon père.
Petite musique d'ambiance.
C'est une immense esplanade qui est implantée dans un cadre magnifique de montagnes tout autour de nous. C'est superbe. Et c'est à côté que se trouve le monastère de Shaolin. Et là, on a la statue immense en bronze d'un des moines qui, selon la légende, a été l'un des défenseurs héroïques des opprimés à son époque. Et c'est à cause de cette légende qu'on vient là, mais vraiment par charter entier, du monde entier, pendant des années, pour apprendre cette technique, cet art. Et puis une certaine façon de penser, je crois aussi. Oh, oh là 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 là. Alors là, cette fois, il repose uniquement sur les pointes des lances. Il y a 6 ou 7 lances, pointes en haut, et le gars est posé sur la pointe des lances. C'est un des exploits dans ce centre de Shaolin. L'art du Kung Fu. C'est incroyable. Non, mais ce qui est formidable, c'est que les films de Kung Fu, voilà, c'est les gamins voient ça dans leur télé, dans leurs jeux vidéo, et ça leur chauffe la tronche. Et voilà ce que ça donne. Ça donne cette ville, et ça ressemble à des casernes. C'est absolument sinistre. Et c'est l'unique activité de cette ville. 80 000 habitants, dont 30 000 stagiaires et apprentis Bruce Lee.
Ça, c'est des salles d'entraînement.
Les salles d'entraînement, c'est exactement des casernes. Une succession de bâtiments de briques de plusieurs centaines de mètres de long. Et dans ces salles, c'est des usines à Bruce Lee. On fabrique du Bruce Lee. Mais c'est immense.
Est-ce que lui va devenir un champion ?
Ah, oui, tiens la rune, Guan Yu.
Oui, je serai un champion.
Depuis combien de temps tu es là ?
4 ans.
Depuis 4 ans.
4 ans ? Toi ?
Oui, 4 ans.
4 ans. Qu'est-ce que vous faites ici ?
Je suis Sanda, Hao Lu.
Je suis ici pour apprendre l'art martiaux.
Nous, vous y êtes.
Il y a le couteau, il y a les bâtons. On fait des combats ensemble entre nous. Chaque année, on a des compétitions.
Mais qui c'est vos parents qui payent pour votre entraînement ici ?
Oui,
c'est les parents qui payent.
Et combien ça coûte par an ?
Plus de 2000 yuan, plus de 200 euros par an.
Alors, ça consiste en quoi ? À quelle heure vous vous levez le matin ?
On se lève à 5h30 du matin. Le matin, on va faire une course. Après qu'on se lève, après c'est l'entraînement. 5 heures en moyenne par jour.
5 heures d'entraînement par jour, tous les jours. C'est une situation extraordinaire. Hein. Il y a ces 6 gamins, parce que c'est quand même des gamins. Voilà, et là, ils viennent de mettre leur uniforme, sur vêtements noirs et rouges avec liseré blanc. Et là, ils sont avec leur sabre. C'est une lame très souple. Et ils commencent leur entraînement. Toi, par exemple, tu vois, viens voir avec nous. Depuis combien de temps tu es ici ?
Depuis 5 ans.
Quel âge tu as ?
17 ans cette année.
17 ans, donc tu es rentré ici à 12 ans ?
Oui.
Quel âge ont les plus petits ici ?
4 ans et demi.
On peut rentrer à partir de 4 ans et demi ici. Et il y a des garçons, il y a des filles aussi. Alors, vous venez d'où les uns et les autres ? Vous venez de la campagne, vous venez de la ville ?
De toute la Chine, de
l'étranger, il y a des étrangers ici ?
Malaisie, Singapour, Italie, de beaucoup de pays.
Et alors vous voulez faire quoi ? Vous voulez tous faire du kung-fu comme dans les films ?
Nous avons cet idéal, on peut dire, mais à vrai dire, notre carrière de futur, c'est plutôt de travailler comme entraîneur de kung-fu.
Ah d'accord, vous apprenez le kung-fu pour apprendre le kung-fu. Est-ce qu'il y a des gens qui sortent d'ici, des jeunes comme vous qui sortent d'ici, et qui sont des vedettes, qui sont des champions, ou qu'on voit ensuite dans des films ?
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
On a déjà une centaine de champions. Et cette année, il y a un groupe d'élèves qui sont invités de tourner un téléfilm. Depuis 5 ans, les élèves de cette école participent au fameux spectacle du Nouvel An chinois.
Oh.
Sur la chaîne principale.
Oui.
Et lui, lui a participé deux fois au spectacle.
Ah, toi, t'es un bon alors.
也就是世界，也可以说是全中国、全世界是最大的一所，名门无疑。
Ici, cette école, c'est la plus grande école de Chine d'arts martiaux.
Alors allons-y, allons-y. Montrez-nous, montrez-nous alors avec les sabres.
Alors, t'es impressionné?
Ah oui, je suis impressionné. Le Lourdes de la Castagne à Denfeng, près de Shaolin, dans le Rhénan, au cœur même de la Chine, dans cette ville de 80 000 habitants, où 30 000 jeunes Chinois, mais pas seulement Chinois, on va le voir, viennent apprendre au cours de, d'années et d'années de, d'exercices quotidiens l'art du Kung-Fu. Alors, c'est très connu, évidemment, Shaolin, ce lieu où nous sommes est un lieu mythique dans l'esprit des Chinois, et il se pourrait bien que là s'illustre et se nourrisse le sentiment nationaliste chinois qui est très aigu et qui a tendance à se développer ces temps-ci en même temps que se développe cet énorme pays. En attendant, on est avec ces jeunes, vous avez vu, qui s'entraînent dans ce cadre-là, avec l'idéologie qui est la leur, aller en avançant, parcourir 10 000 lieues entre le ciel et la terre. Je suis un Shaolin, chante-t-il. J'ai un kung-fu sans équivalent dans le monde, mais j'ai un cœur d'or et suis toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin. C'est la nature des héros de veiller à l'ordre du monde. Alors, on est dans une situation assez formidable, là. On est dimanche, on est dans un resto chinois, puisqu'on est en Chine, c'est un peu normal. Mais on est avec des élèves kung-fu, deux jeunes hommes qui sont avec nous. L'un est brésilien, l'autre est hollandais, et tous deux font leur entraînement. Richard,
yes.
Toi, tu viens d'où?
Ah, Amsterdam.
Amsterdam. Depuis quand tu es là?
Half of October.
Mi-octobre, je suis arrivé à la mi-octobre.
T'es le seul blond du pays.
Yeah, right, yes.
Pourquoi tu es venu ici?
For my martial arts, for the skill of kung fu.
Pour apprendre les arts martiaux et pour pratiquer le kung fu.
Quel âge tu as, Richard?
I'm 32.
32 ans.
Et alors pourquoi venir ici maintenant?
Ah, but yeah, the kung fu is coming from China and here you are intern, you know, you can train every day.
Bah, le kung fu ça vient de Chine et ici on est vraiment intégré dans un établissement et on peut s'entraîner tous les jours.
5 hours a day.
5 heures d'entraînement physique par jour.
Et tu restes combien de temps?
2 years.
2 ans.
Ah, c'est un stage de 2 ans. Mais nous, on est tout à fait stupéfaits par le nombre. Combien, d'après toi, combien d'élèves y a-t-il dans cette ville?
Maybe 40, 50,000 students.
40, dans toute la ville, je pense qu'il y en a facile 40 à 50 000 élèves.
Only Tagu is 20,000 students.
Rien que l'école Tagu, qui est une des écoles les plus célèbres, 20 000 élèves, rien que dans cette école-ci.
Comment t'as commencé à faire des arts martiaux?
Yeah, between 10 years old, I saw the first movie from Bruce Lee, The Big Boss.
À 10 ans, j'ai vu le premier film avec Bruce Lee, The Big Boss.
And my eyes and my mouth opened like this.
Et ma bouche et mes yeux sont restés mais béants comme ça.
I like to do this as well.
Je veux faire pareil que lui.
It's in your heart.
Et après, ça te porte, quoi. Ça reste dans ton cœur.
My name is Gerald. Geraldo. I'm Brazilian.
Mon nom est Geraldo. Je suis brésilien.
Comment tu es arrivé ici?
Well, because I have this dream for 15 years.
Ça fait 15 ans que je rêve de venir ici, moi.
Yeah, 15 years ago, I came here in China the first time in my life to represent my country in kind of tournament championship.
Il y a 15 ans de ça, je suis venu déjà pour la première fois de ma vie en Chine pour représenter le Brésil dans un championnat, un tournoi de kung fu.
Shaolin Festival.
C'était pendant le festival Shaolin.
Mais dis-moi, moi j'ai été étonné tout à l'heure, on voyait des démonstrations. Je trouve que le kung fu c'est assez proche de la capoeira.
Non, kung fu is more seriously and kung fu is more complete.
Non, le kung fu c'est beaucoup plus sérieux et surtout c'est beaucoup plus complet.
Capoeira is like a dance just for funny.
La capoeira c'est un peu comme de la danse quoi, c'est juste un loisir.
Tandis que le kung fu c'est vraiment un art martial, c'est un art de combat.
Kung fu is everything because
kung fu c'est tout.
Because kung fu you can prepare your mind and the spirit and body.
Parce que le kung fu tu prépares ta tête, ton esprit et ton corps.
And if you have to usually like a self defense in kung fu, if you practice 2 years, you are unable to defend yourself.
Et par exemple pour l'autodéfense, si tu fais 2 ans de kung fu, après tu es prêt à te défendre toi-même, tu
because
peux résister.
Because it gives you very strong confidence.
Parce qu'après ça te permet d'avoir une très forte confiance en toi.
Mais pourquoi il faut se défendre? Toi, tu as besoin de faire de te défendre? T'es attaqué?
A lot of times.
Ah oui, très souvent j'ai été attaqué.
Pourquoi?
Au Brésil surtout.
To survive today, I say thank you God and thank you Kung Fu.
Si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est merci Dieu et merci au Kung Fu.
Alors voilà le coach.
Je m'appelle Shen Jia.
Et vous êtes moniteur, coach de Kung Fu.
Yes.
Alors qu'est-ce que tu leur apprends?
Kung Fu.
Quand on apprend l'art martiaux, la première chose, il faut connaître la moralité de Kung Fu.
Ah, c'est quoi la moralité du Kung Fu?
武德主要是以武德就是要这种就像上学一样，首先要尊敬师长，维护就是可以见义勇为。
C'est comme quand on apprend à l'école, il faut respecter les personnes âgées, les professeurs, les parents. Un jour, tu vois quelque chose d'injustice, il faut que tu sois là.
首先学武就是要保护自己。 有本事保护家人才能保护这个。Apprendre
l'art martiaux, c'est d'abord pour se protéger, pour se défendre. Et la deuxième chose, c'est pour protéger ta famille et des amis.
Combien de temps durent les études?
3 ans.
3 ans.
Alors au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on devient?
就当保镖的,
Il y a
beaucoup de gens qui sont devenus des gardiens ou des gardes de corps.
Voilà, dans des compagnies de sécurité privées.
Il
y a d'autres, ils partent dans l'armée ou bien faire des petits commerces. Peut-être pour vous, à l'étranger, d'arts martiaux, c'est quelque chose d'exotique, extraordinaire. Mais ici, il y a énormément de Chinois qui travaillent dans ce domaine. Donc il y a trop de monde.
Il y a plus d'offres que de demandes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ont fait du kung-fu qui ne trouvent pas de travail, tout simplement. Ah. Qui ne trouvent pas comment utiliser leurs compétences.
Ah, c'est ça.
Le
kung-fu, c'est une sorte de patrimoine très précieux de la Chine. C'est pourquoi depuis ces dernières années, le kung-fu est devenu très très réputé dans le monde entier.
Dans les films de kung-fu, moi j'ai vu tout à l'heure des images, on voyait un gars qui cassait un bâton sur le ventre d'un autre. Comment c'est possible ça ?
Là, c'est qigong. Qigong, le qi, ça veut dire le souffle.
Qi.
Ça vient de ce souffle orin.
Qi, de quoi ? D'abord,
il faut le courage. C'est le qigong solide. On appelle ça qigong solide.
Toi, tu sais le faire, ça ?
Moi,
si je prends un manche à balai que j'essaie de te casser sur le ventre, ça marche ?
Oui, tu peux essayer maintenant.
Tu veux qu'on essaie avec un manche à balai ? Je vais te casser un manche à balai sur le ventre. Sur le ventre, j'ai dit pas sur le dos.
Tu peux le toucher.
Ah, il a le ventre dur.
Et il a dit c'est très simple à faire ça. C'est quelque chose de base, très simple.
Et est-ce que vous savez casser des briques, les gars ?
Il faut
s'entraîner, c'est une sorte de technique très spéciale.
Et quoi d'autre d'extraordinaire comme ça ? Là, il vient juste de se lever, notre ami, là, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est son jour de repos, et il a mis ses belles chaussures vernies, noires. Enfin, il vient quand même de nous montrer, hop, juste en se levant, qu'il peut mettre son pied sur sa tête. Et c'est pas tout. Il peut tenir une heure comme ça.
Nos deux copains étrangers disent « Ah oui, le chef, le coach, il est vraiment très fort, mais simplement, si on ne fait pas bien les exercices, s'il y en a un qui se plante sur les exercices, il engueule tous les autres et tout le monde est obligé de faire des punitions. »
Ah ouais.
Donc, il les tient à carreau, quoi.
Mais qu'est-ce que c'est un bon coach ? Il faut une discipline de fer.
Comme ce qu'on fait dans l'armée. C'est une sorte de management militaire. Quand tu marches, quand tu restes dans la chambre, il faut toujours la discipline.
Est-ce que ça marche avec les filles ? Est-ce que les femmes sont sensibles au kung-fu, aux hommes qui font du kung-fu ?
Dans le sud de la Chine.
Dans le sud de la Chine, les femmes aiment les hommes qui font du kung-fu. Mais c'est mauvais parce que quand t'es avec une femme, tu perds tes forces. T'as moins envie de te battre quand t'es avec une femme.
Il faut que tu saches, les hommes qui ont appris l'art martiaux, ils sont
quand ils sont avec des femmes, ils sont tellement tendres, ils sont tellement doux.
Oui, mais si tu t'occupes trop de ta femme ou des femmes, t'es moins fort.
Oui, il a dit oui.
Donc
c'est pour ça, chaque année, on a une seule fois de vacances.
Pas trop de femmes.
Un mois.
Un mois de femmes et le reste du temps, hop, à l'entraînement.
Une
fois par semaine, on peut rester avec la femme.
Une fois par semaine, bon, c'est pas beaucoup quand même.
C'est comme à l'époque de Mao.
Parce que
à l'époque de Mao, c'était ça, c'était une demi-heure par semaine.
C'est la discipline de notre école.
Des millions et des millions et des millions de Chinois, mais pas seulement de Chinois, les sons que vous entendez, les bruits que vous entendez sont d'une violente nostalgie. Jouissez un peu de cette madeleine sonore. Voilà, on est à exactement à Pingdingshan, toujours dans le Henan. On y restera plus longtemps la semaine prochaine. Et vous avez compris qu'il s'agit de trains à vapeur, il s'agit de locomotives à vapeur, les dernières locomotives à vapeur de Chine dans cette mine. Il en reste 17 dans cette... Il y a d'autres endroits en Chine où des machines à vapeur, des locomotives à vapeur sont encore en service, mais là on est dans cette... Alors il s'agit de locomotives qui servent à tirer des wagons de charbon dans cette mine. Alors voilà, c'est la bête humaine chinoise, nostalgie, émerveillement, retour en enfance et apothéose, chant du cygne d'une grande séquence de l'histoire humaine, celle de la machine à vapeur et de l'industrie. Voilà. Alors là, on est vraiment dans le paradis des enfants, parce que tous les enfants du monde qui ont aimé les trains et qui aiment les trains seraient ravis d'être là. Parce que voilà, on voit là, là-bas, voilà. Voilà, c'est les derniers trains à vapeur de Chine. Il y a encore quelques lignes de trains à vapeur, de locomotives à vapeur en Chine. Alors, on est où exactement, monsieur Yang ?
Ah, c'est... 我们平尾集团填筑的机务段的一个这个整备线
On est à l'intérieur du secteur des locomotives de la société Charbon Pingdingshan.
C'est une société nationale.
对对，国有企业.
Oui.
煤矿铁路就是.
C'est le chemin de fer pour la mine de charbon.
C'est ça. Alors, vous avez continué à exploiter des locomotives à vapeur.
对，现在还有17台吧.
Encore 17 locomotives à la vapeur.
Elles datent de quand ces locomotives ? Elles ont été construites quand ?
Dans les années 80.
Dans les années 80, on construisait toujours des locomotives à vapeur en Chine.
Oui. Maintenant, c'est...
On ne fabrique plus.
D'accord. Il y a combien de chauffeurs alors ?
Dans
ce secteur, il y a 250 employés. Il y a 7 qui conduisent le loco électrique. Ah, et le reste, sont tous des chauffeurs de locomotives à la vapeur.
D'accord, d'accord. Et je suppose que les ouvriers sont particulièrement fiers, non, de faire ça.
Ces chauffeurs-là, ils sont en train d'étudier, d'apprendre comment conduire les locomotives électriques, puisque dans 5 ans, dans 10 ans, on n'utilise plus ce genre de locomotive.
Donc, vous pensez les utiliser encore pendant 5 à 10 ans et après ce sera fini? Et pourtant, c'est très facile parce que ici vous avez du charbon, donc ça coûte presque rien, et puis l'eau, ça coûte rien.
Puisque avec le pétrole, ça coûte beaucoup plus cher.
Ben oui, le diesel va vous coûter plus cher.
C'est la tendance de développement de la société. Ici, on peut dire c'est l'entrepôt, c'est la maison de ces locomotives. Donc les chauffeurs, ils changent de poste ici. Après, ils vont partir d'ici.
Il y a un atelier de réparation et de construction.
Yo, 对面就是.
C'est juste en face.
On peut aller le voir.
Oui,
génial. Voilà, si vous revenez la semaine prochaine dans la base, si j'y suis, ben on ira faire tous un tour dans ces trains et ces locomotives à vapeur chinoises.
et on visitera cet atelier où on trouve l'ambiance des grands ateliers du siècle dernier. Salut à tous les cheminots et nostalgie et plaisir, quelques heures de plaisir avec ces travailleurs et ces cheminots chinois. Merci à tous, merci à Richard, Géraldo et à leur coach, ainsi qu'aux élèves de l'école de Kung-Fu de Tagu. Traduction Yang Yang. Yang Yang, c'est la voix de la jeune femme. Et notre ami Luc Richard. Toute une bibliographie de la Chine est présente sur le site France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Et puis je vous signale le livre formidable des films de Florence Miaille, des films d'animation, de peinture animée avec des textes, des scénarios de Marie Desplechin, coédité par Arte Éditions et les éditions du Garde-Temps. Le livre est accompagné d'un DVD formidable des films de Florence Miaille que vous rencontrerez aussi probablement si vous cherchez un peu au Salon du Livre. À la technique aujourd'hui, Eric Mainviel et Dimitri Gronoff. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, montée par Raphaël Moutarde, assisté de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert, lui, est près du répondeur, attendant vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Il va être 16h sur France Inter. On se retrouve lundi pour Là-bas si j'y suis. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine.